Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation, Thibaut, Nalini, c'est un plaisir d'être ici. Donc moi, je vais vous présenter un exposé dans lequel il va y avoir beaucoup d'images. Donc il y aura quelques modèles mathématiques, mais vraiment beaucoup d'images. Et voilà, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, donc, déjà un peu de vocabulaire. Donc, de quoi on va parler ? On va parler d'images. Donc, les images, c'est quoi ? En fait, on va les voir comme des fonctions qui sont définies sur un domaine rectangulaire de Z2, donc avec qui sont de taille N1 fois N2, et puis ça va être à valeur dans R, ou enfin, des fois c'est à valeur même entière, mais là on va les prendre plus généralement à valeur dans R. Donc ça, c'est pour les images en niveau de gris. Et puis les images en couleur, en fait, au lieu d'être à valeur dans R, c'est à valeur dans R3. Il y a les trois carnots, rouge, vert, bleu, qui ont trois valeurs. Donc, alors il y a des gens qui appellent ça des matrices. Moi, j'aime pas trop appeler ça une matrice, parce qu'on a l'impression que quand on dit matrice, on va pouvoir faire de l'algèbre linéaire dessus, etc. Alors que pas du tout, c'est juste des tableaux de nombres. Donc il faut plutôt le voir comme étant une fonction, mais où on a pris la valeur seulement en certains points d'une grille. Voilà, donc c'est une discrétisation d'une valeur. Et alors les conventions de couleur, c'est qu'en général les niveaux sont de plus en plus élevés, plus c'est clair, et plus c'est sombre, plus c'est vers le zéro, en fait. Voilà. Et alors je vais aussi pas mal parler dans mon exposé de texture. Alors la texture, déjà c'est beaucoup moins clair ce que c'est. Donc une texture, c'est l'idée que vous avez une image d'un objet qui est plus ou moins aléatoire et qui se répète de manière plus ou moins aléatoire. Donc voilà, tout ça est très vague. Et en fait, les textures, on les classe essentiellement en deux sous-classes. Donc il y a la classe des microtextures. Donc les microtextures, bah, on ne peut pas vraiment définir quel est le motif qui se répète. Voilà. Et puis vous avez la classe des macrotextures, où là on a l'impression qu'on peut commencer à discerner des objets. Et voilà, comme par exemple dans ces cailloux, bah, on se dit bien que voilà, il y a des cailloux, ils ont des formes différentes, des couleurs différentes, ils ont des places différentes, etc. Donc ça répond bien à la notion d'objet qui se répète. L'objet est lui-même aléatoire et il se répète de façon aléatoire dans l'image. Donc il y a plein de familles comme ça de textures, micro-textures, macro-textures. Donc d'abord, en fait, le problème dans tout ça, c'est une question d'échelle, en fait. La question d'échelle, elle est vraiment cruciale dans les images. Donc tout dépend à quelle distance vous regardez les choses. Quand vous prenez une image, si vous la regardez de très très loin, ben vous avez l'impression de voir une microtexture. Vous la regardez de plus près, ça devient une macrotexture. Et puis si vous regardez d'encore plus près, ben vous voyez des objets individuels et ça devient juste une image. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous dire que la notion de texture, elle est très mal définie. Et donc voilà, il n'y a pas très grand chose de très mathématiquement bien défini dans tout ça. Mais on va essayer justement de faire des modèles qui, eux, sont bien définis et répondent à certaines questions. Donc, d'abord, je vais vous présenter toute une famille de modèles de géométrie stochastique qui permettent comme ça de générer des images aléatoires. Donc, je remercie Pierre pour son introduction des processus de Poisson, Anne qui a fait des modèles aussi gaussiens, etc. Donc, il y a plein de choses que vous allez retrouver, des ingrédients qu'on a vu ce matin ou tout à l'heure. Donc le premier modèle, qui est en quelque sorte le plus simple, qui est juste un problème binaire. Donc là, juste pour dire, là je vais considérer mes images comme étant des choses définies sur R2 tout entier. Il n'y a pas encore la discrétisation en pixels, d'accord ? Donc là, il n'y a pas de pixels, on est défini sur vraiment Z2 pour ces modèles. Donc en fait, on part d'un processus de Poisson. Donc un processus de Poisson d'intensité lambda sur R2, on est sur le plan. Et on a aussi des compacts aléatoires. Donc les décompacts KI qui sont aléatoires, qui sont indépendants des points. Et puis en fait, ce qu'on va faire, le modèle booléen, eh ben, c'est un ensemble aléatoire qui est défini comme l'union de tous ces compacts, de tous ces compacts KI qu'on a placés, qu'on a centrés au point XI. Donc vous mettez votre compact partout, vous prenez l'union de tout ça, et puis vous obtenez un ensemble Z, qui est un ensemble aléatoire, un sous-ensemble de Z de R2 qui est aléatoire. Et donc ça peut être transformé en une fonction aléatoire en prenant l'indicatrice de cet ensemble. Donc le champ X, hein, grand X, et ben l'indicatrice de cet ensemble Z, donc là vous avez un champ aléatoire qui est à valeur binaire, 0 ou 1. Et donc c'est ça ce qu'on appelle un modèle modèle booléen. Alors, dans ce modèle-là, l'avantage, c'est qu'on peut calculer des choses. Et en particulier, on peut calculer des choses parce que la loi de Poisson, elle a plein de moments qu'on peut calculer. Et c'est assez magique la façon dont on peut calculer des choses avec une loi de Poisson. Et beaucoup plus simplement qu'avec une loi binomiale ou avec d'autres lois plus compliquées. Et donc, en particulier, on peut, par exemple, calculer quelle est la probabilité qu'en un point donné, il appartienne à Z, donc c'est la probabilité que X de X soit égal à 1, bah c'est 1 moins la probabilité qu'il soit égal à 0, et ça peut se calculer à partir de la fonction de vide de notre modèle booléen. Et donc voilà, tout de suite un petit exemple d'image. Voilà, donc là vous avez un exemple de modèle booléen, où vous avez des disques de rayons aléatoires, c'est nos cahiers. Oui.
Il y a quelque chose qui me chante dans le calcul, c'est le fait que les objets puissent se recouvrir,
ça oui. Pas. Non, pas du tout. Non. En fait, justement, quand tu calcules la probabilité que ça soit égal à zéro, ça veut dire que tu n'as aucun objet autour de toi et du coup, là, t'es bien. C'est parce qu'en poisson, tu peux calculer les probabilités de vide. Sinon, c'est... Ouais. Donc, c'est vraiment la magie du poisson, en fait. La magie du poisson, qui reviendra plusieurs fois. Donc, voilà. Un exemple de modèle booléen. Là, dans une fenêtre, vous avez un modèle booléen. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est infini, en fait. Donc voilà, donc ça c'est un premier modèle. On le reverra à la fin, en fait, justement en mammographie. Je vous expliquerai comment, en fait, ce modèle, alors ce sera avec des ellipsoïdes et ce sera en dimension 3, mais voilà, c'est un modèle qu'on va réutiliser après, justement, dans des applications très concrètes.
Excuse-moi, juste une petite question naïve pour le modèle que tu regardais là.
Oui.
Une petite question naïve. C'est, là, tu disais que tes compacts ils sont choisis aléatoirement.
Oui.
Donc là, j'imagine que c'est le rayon des disques qui est aléatoire.
Oui.
Tu mets quelle loi là-dessus ?
Là, j'ai dû mettre une loi uniforme entre sur une taille minimum et une taille maximum.
D'accord, oui, il y a une. Mais potentiellement, ça peut être.
Tu peux mettre des lois de puissance, tu peux mettre n'importe quelle loi en fait. Et justement, il y a des propriétés. Est-ce que tu recouvres tout ? Est-ce que tu percoles ? Les modèles de percolation continue sont avec ces choses-là en fait. Il y a des. Ouais. Et ça, c'est lié aussi à l'intensité du processus de Poisson, qui est lambda. Donc tout ça est lié en fait. Voilà, donc après, un autre modèle, justement, dont Anne a parlé aussi, là, les modèles shot noise, c'est au lieu de faire qu'on est binaire, soit on appartient à l'ensemble, soit on n'y appartient pas, et ben on va additionner les choses, et on va les additionner, et puis on n'est pas obligé de mettre un compact KI autour de chaque point, on peut mettre une fonction autour de chaque point. Donc pour ça, on va considérer ce qu'on appelle un processus marqué, d'accord ? Donc on a notre processus de Poisson, c'est les points XI, et puis on va leur associer à chacun une marque. Donc ça va être en gros un paramètre qui va être le paramètre d'une fonction paramétrique GM. Donc on peut penser par exemple à M, c'est le rayon d'un disque, et GM, c'est l'indicatrice d'un disque de rayon M, par exemple. Et puis après, ce qu'on va faire, donc il faut satisfaire certaines conditions d'intégrabilité, et puis le shot noise, ça va être l'addition de toutes ces fonctions aléatoires mises centrées sur les points du processus de Poisson, avec à chaque fois la marque MI. Donc là, on définit un champ aléatoire. Et puis ce champ aléatoire, il a aussi plein de bonnes propriétés qu'on peut calculer grâce à la magie du poisson. Et bien la magie du poisson, en fait, par les formules de Campbell, et bien on peut calculer toutes les lois finidimensionnelles de ce champ aléatoire. Et donc on peut les calculer. Alors je vous ai mis la formule explicite ici. Donc si vous prenez le champ en des points xj différents, et bien on a la fonction caractéristique, en fait, jointe du champ pris en tous ces points-là, qui s'écrit comme l'exponentielle d'intégrale d'une exponentielle de... Et après, quand on va mettre GM, un noyau gaussien, d'une exponentielle, d'accord ? Donc, c'est explicite, mais après, quand il faut le manipuler, quand il faut vérifier numériquement, ça reste... voilà. C'est la différence entre l'explicite du mathématicien et l'explicite appliqué, quoi. Mais par contre, on peut quand même calculer explicitement les premiers moments en fait, de champ. Enfin, on peut tous les calculer, mais les premiers moments sont assez simples. Donc l'espérance de X, bah, en fait, comme on a un champ stationnaire, parce que notre processus de Poisson il est homogène d'intensité lambda, et bien, ça va être juste lambda fois l'intégrale de GM. Et puis pareil, on peut calculer la covariance de ce champ. Et la covariance, bah, c'est juste l'autocorrélation moyenne des fonctions GM. Donc ça se calcule vraiment, vraiment simplement.
Ouais, oui. Transparent,
ouais.
On définit X comme...
Grand X, tu veux dire ?
Ouais.
Grand X, c'est la somme. Tu t'additionnes les choses, en fait. Ici.
Il y a quelque chose de gaussien dans ce que tu décris ?
Non, mais c'est qu'après, je vais prendre pour mes GN des fonctions gaussiennes. Mais en tout cas, ce X n'est pas du tout gaussien. Et c'est un des rares exemples de champ qui n'est pas gaussien, dans lequel on peut calculer quand même plein de moments, plein de choses, où la fonction caractéristique est explicite, enfin, où on peut calculer beaucoup de choses sans que ça soit gaussien. Mais après, comme disait Anne, ça va devenir gaussien à la limite quand on va faire tendre le lambda, l'intensité du processus de vers l'infini. Et ça, je vais le montrer après, justement, en discret. On va voir la convergence vers le gaussien.
Qu'est-ce que c'est la formule du Campbell dont
tu parlais? Et ben, ça permet de faire des calculs sur des processus de Poisson. En fait, tu peux faire des sur les processus de Poisson, et finalement, ça te permet de faire tous ces calculs sur les processus de Poisson. En fait, tu peux calculer des espérances sur des choses comme ça, en fait, sur des qui sont liées à des processus de Poisson.
Les calculs que tu décris dans 130, c'est des calculs sur les processus de Poisson pour l'espérance
et la Ouais, c'est ça. En fait, c'est le lambda là qui sort, et tout ça, c'est très lié au fait que tu as un processus ponctuel de Poisson derrière. Et la loi de Poisson qui te permet de calculer tous ces moments. Et donc, en fait, le champ qu'on obtient, là, le X, il a vraiment une régularité qui dépend du noyau qu'on a mis, le noyau GM, là. Alors, on l'appelle noyau, spot, shot, enfin, ça, il a plein de noms différents. Et là, justement, j'ai pris lui-même un noyau gaussien, mais c'est pas pour ça que j'ai un champ gaussien, d'accord ? C'est un shot noise avec noyau gaussien, mais qui n'est pas gaussien. Et donc, là, on a un champ très régulier, très lisse. En fait, on a mis en fait, des gaussiennes un peu partout, comme ça, dans le plan, et on a additionné tout ça. Et après, on peut le faire aussi avec des fonctions qui ne sont pas lisses. Donc là, c'est le premier exemple que je disais, parce que si on prend pour GM, en fait, c'est une impulsion, un niveau de gris, fois l'indicatrice d'indice de rayon R. Donc les bêta et les R sont choisis indépendantes avec du processus de Poisson avec des lois données. Et puis on obtient des images comme ça, en fait. On a des disques, tout se superpose, tout s'additionne, en fait. Et là, les disques ont des niveaux de gris aléatoires, et puis ils s'additionnent, etc. Donc voilà, donc ça, c'est le modèle Shot Noise. Alors maintenant, encore un troisième modèle, alors que j'aime bien, qui fait des jolies images, c'est le modèle Feuille Morte. Donc le modèle Feuille Morte, il porte vraiment bien son nom, comme vous allez le voir. Donc là, cette fois-ci, il y a une notion de temps qui s'ajoute, en fait. Vous avez toujours votre processus de Poisson, là, les XI qui sont distribués suivant un processus de Poisson. Et puis maintenant, on va avoir un TI qui va être associé à chaque XI. Donc TI, c'est des temps d'arrivée qui sont aléatoires, qui sont eux aussi distribués suivant une loi de Poisson, donc soit sur 0 grand T avec grand T fini, ou sinon ça peut être sur plus l'infini. Et donc ça va, les XI, ça va être les positions des feuilles, et puis les TI, ça va être le temps où elles arrivent. Et donc là, il faut que vous imaginez, vous êtes sous un plafond transparent, et puis il y a des feuilles qui tombent au fur et à mesure sur le plafond. Donc ce que vous allez voir, en fait, c'est la première feuille qui arrive sur un instant, parce que celles qui vont arriver derrière, elles vont être cachées par la première qui est arrivée, donc vous n'allez pas les voir. Donc en fait, votre champ X que vous voyez, eh ben, en fait, chaque feuille, elle va arriver avec une certaine forme KI et une couleur bêta I. Et ce que vous allez voir, c'est le bêta IX et l'indicatrice de justement la forme KIX au point justement centré en XIX, où IX est la première feuille qui a recouvert le point X. D'accord ? C'est le premier instant, c'est la première feuille qui est arrivée au-dessus du point X. Et donc, après, il y a une convention, quand il n'y a rien qui tombe, on peut dire que ça vaut zéro. Et donc, ça permet de faire des très jolies images, comme ces images-là. Alors là, vous avez juste en niveau de gris, vous avez des disques qui, justement, il y a le premier qui est arrivé, les autres, ils superposent comme ça. Vraiment, c'est vraiment les feuilles mortes, c'est exactement le bon nom pour ça. Et puis là, vous l'avez en version des carrés avec des couleurs, voilà. Et alors ça, c'est un modèle qui est très utilisé en traitement d'image parce que c'est quelque chose qui est assez réaliste du modèle de formation des images, en fait. Quand vous prenez en photo un objet, et ben, il y a l'objet qui est devant, qui cache les objets qui sont derrière, etc. Il n'y a pas du tout d'addition, comme dans le modèle Shot Noise, où les objets ne sont pas transparents. Il y a des occlusions. Un objet, il cache ceux qui sont derrière lui. Et puis, en plus, vous pouvez jouer avec des paramètres d'échelle, en fait, des lois d'échelle sur les objets, en disant que les objets qui sont plus loin, du coup, ils sont plus petits, etc. Donc, finalement, en jouant sur les paramètres des objets, les lois des objets, on peut retrouver, avec un modèle comme ça, vraiment des statistiques qu'il y a dans les images naturelles, où il y a plein d'objets petits, il y a voilà, les objets gros qui cachent les autres. Il y a ce qu'on appelle les jonctions en T, c'est-à-dire c'est tous les endroits où il y a un objet qui en cache un autre, le bord d'un objet, il s'arrête sur le bord d'un autre objet, donc ça crée des jonctions en T. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est très utilisé en fait en traitement d'image, parce que parce qu'il est relativement réaliste en fait.
Et le modèle booléen, ça, c'est quand ils ont tous la même, quand toutes les feuilles ont la même couleur, c'est ça ?
Non, c'est juste, est-ce que tu es dans une feuille ou est-ce que tu n'y es pas ? C'est 0 ou 1. Il n'y a pas du tout la notion de...
Mais si elles étaient toutes blanches, ça donnerait un modèle booléen ? Si tu avais que des feuilles de la même couleur qui
Si tu avais... Oui, je pense.
Ouais.
Oui, je pense. Je pense parce que du coup, celles qui sont derrière, tu les vois. Ouais. Enfin, tu les vois pas plus que si elles sont incluses. Ouais, je pense. Je pense que oui. Alors ces modèles sont liés entre eux, en fait. Ouais. En fait, quand tu ici, voilà, dans le shot noise, ici, au lieu de faire une somme, si on fait d'autres types d'opérations, on peut prendre en fait un max ou en rajoutant justement le temps d'arrivée, etc. Et puis après, si on seuille certains modèles, si vous seuillez un shot noise comme ça au niveau 1, vous pouvez aussi obtenir un modèle booléen. Donc il y a des liens entre ces trois modèles en fait. Ils sont pas disjoints. Enfin, c'est pas des familles de modèles disjoints. Suivant les paramètres, on peut les faire coïncider en fait. Voilà. Donc et après voilà, un modèle dont je vais pas mal parler, c'est le modèle gaussien. Donc là, moi, la façon dont je vais voir les choses, ça va être maintenant, je vais me placer dans un cadre discret. Donc être en discret, ça évite tous les problèmes de fonctions mesurables, d'intégrales qui divergent, d'IRA qui existent. Enfin, c'est pour faire des calculs, c'est tellement plus simple. Donc maintenant, je vais me passer dans ma fenêtre oméga, qui va être une fenêtre rectangulaire discrète de Z2, donc un domaine rectangulaire. Et puis l'équivalent du shot noise que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de marque, il est simplifié, mais ça devient ce Sn de x, c'est la somme de j égale 1 à n de g de x moins xj. Où maintenant, les xj, eh ben, ils sont pris aléatoirement à l'intérieur de cet ensemble oméga. Donc c'est un ensemble fini, d'accord ? Donc je prends juste des xi uniformément là-dedans. Donc quand n est grand, ben, je vais retomber plusieurs fois sur mon xi, d'accord ? Je vais retomber plusieurs fois sur certains points. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une convergence quand n va tendre vers l'infini, vers quelque chose de gaussien. Donc là, vous en avez une petite illustration. Vous avez votre spot G là, qui est l'indicatrice d'un disque version discrétisée, d'accord. Après, vous en prenez 10 fois, 1000, etc. Et puis à la fin, en fait, si on renormalise bien les choses, on va tendre vers un modèle gaussien. Donc un modèle gaussien, ça va être quoi? Nos images gaussiennes, ça va être ce que je vais appeler une image gaussienne. Donc ça va être une image qui est définie sur mon domaine discret. Oméga, là maintenant, ça va être un domaine discret. Et qui est en fait une gaussienne multidimensionnelle. Donc c'est-à-dire que quand je prends la loi de tous mes i de x pour x appartenant à oméga, eh ben ça suit une loi gaussienne multidimensionnelle. Et comme je veux que ça soit stationnaire, ben la moyenne, en fait, c'est une moyenne qui est un vecteur constant, parce que je veux que tous mes i de x, ils aient la même moyenne. Et je veux que la covariance aussi, elle soit invariante par translation. Donc en fait, ma matrice de covariance, c'est gras là, elle a une forme particulière, elle est circulante et puis périodique. Donc ça veut dire qu'en fait, les c de x, y, c'est pareil que les c de x plus z, y plus z, pour tous les x, y, z qui sont dans mon domaine oméga, sachant que quand je fais des translations, je les prends modulo oméga. Donc ce qui se passe sur les bords droits de mes images, c'est pareil que sur les bords gauche et en haut, c'est pareil qu'en bas. Donc je périodise tout ça, ça permet de faire plein de bons calculs. Et donc ce modèle, il est caractérisé par le fait que donc son espérance, eh ben, en i de x, c'est égal à m. Et puis la covariance, eh ben, justement, c'est la covariance. Et ça se ramène juste à une fonction de covariance qui est le c de x, qui est pareil, qui compte juste le décalage entre 0 et x. Et donc ça, en fait, l'avantage de ce modèle, c'est qu'on peut le décrire très facilement par la transformée de Fourier, puisque la transformée de Fourier, la base de Fourier, justement, va diagonaliser ce genre de covariance. Donc ça va vous rendre les choses indépendantes, en fait, dans la base de Fourier. Et donc une image, si on définit la transformée de Fourier discrète comme étant simplement, maintenant on ne fait que des sommes, d'accord ? Donc c'est des sommes de, sur tous les x appartenant à oméga, et puis on a i de x exponentielle moins 2i pi x xi avec un produit scalaire, qui est justement le produit scalaire modulo oméga, donc modulo n1, n2, la taille de oméga en tant que rectangle discret. Et donc quand on utilise cette transformée de Fourier-là, et ben, du coup, si votre image elle est gaussienne stationnaire, et ben, ces coefficients de Fourier, donc tous les i chapeaux de x, ils deviennent indépendants et avec moyenne nulle. Et puis, c'est des gaussiennes complexes qui ont pour variance la transformée de Fourier de ma fonction de covariance, ces chapeaux de xi. Donc ça, c'est la variance de mes ces chapeaux de xi. Ça montre au passage que les ces chapeaux de xi sont positifs. D'accord, la fonction de covariance, elle a une transformée de Fourier qui est positive. Et donc, en fait, mon image en Fourier, elle s'écrit comme i chapeau de xi égale module de i chapeau de xi exponentielle i phi de xi, où le i de xi, c'est le module de la transformée de Fourier, ça va suivre une loi de Rayleigh de paramètres c chapeau de xi, et qui va être indépendant des phases phi de xi, qui, elles, vont être uniformes sur 0 de pi, sur le cercle unité. Et donc, en fait, quelque part, on est en train de faire une série de Fourier aléatoires. D'accord ? On est en train de générer comme ça en Fourier, très simplement, des coefficients de Fourier. Après, on prend Fourier inverse et on se retrouve avec une image qui a la bonne covariance qu'on veut, etc. Donc, c'est très facile à générer en Fourier. Oui ?
J'ai une question sur ton tête. Tu prends une covariance qui est un variant de translation,
oui,
mais tu te places dans un domaine qui lui-même.
Oui, alors les images que je vais générer, du coup, c'est ce que je disais, en fait, le bord droit et gauche, elles vont se recoller. En fait, c'est des images qui sont sur un tore, quoi, qui sont, elles se recollent. Ouais. Donc, après, quand on veut générer des images qui n'ont pas cet effet de périodisation, en général, on les simule sur un domaine très grand, puis après, on en garde juste une fenêtre au milieu, et puis voilà. Mais c'est tellement plus simple d'avoir la transformée de Fourier qui diagonalise les covariances et qui fait les... Enfin, et puis dans les ordinateurs, vous avez la transformée de Fourier rapide. Enfin, c'est vraiment instantané à calculer, en fait. Donc voilà. Donc en fait, les modèles comme ça, gaussiens, ils sont très bien décrits par une amplitude qui suit une loi de Rayleigh d'un certain paramètre C chapeau de xi et les phases qui sont en fait uniformes sur 0 de pi. Du coup, ce qui m'amène à l'importance de la phase d'une image, en fait. Donc l'importance de la phase d'une image, donc ça c'est une expérience qui est assez rigolote à faire. Donc c'est quand vous avez une image, quel est le rôle du module par rapport au rôle de la phase? Quand je dis module et phase, à chaque fois c'est quand je prends la transformée de Fourier, le module de la transformée de Fourier et la phase de la transformée de Fourier. Et en fait, dans les images, on peut vérifier, alors là c'est une vérification expérimentale, que les contours géométriques, ils sont plutôt stockés dans la phase, alors que les textures, elles sont plutôt stockées dans les amplitudes, dans les modules de la transformée de Fourier. Et donc, pour faire ça, vous pouvez faire une expérience qui est vraiment très simple. Vous prenez deux images qui ont la même taille, et puis vous prenez la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier, c'est aussi une image qui a la même taille. Et vous prenez d'un côté le module de la transformée de Fourier, et de l'autre, la phase de la transformée de Fourier. Et maintenant, vous croisez les choses. Ici, vous prenez cette image, vous gardez son module et vous prenez la phase de cette image-là. Et puis là, vous prenez le module, hein, de cette image-là et la phase de celle-là. D'accord ? Vous inversez. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'ici, dans cette image, on reconnaît très bien celle-là. D'accord ? Donc, c'est l'image qui a la phase qu'on reconnaît très bien quand il y a des structures géométriques. Alors, par contre, ici, vous faites la même chose sur ces deux images de texture. Là, j'ai pris la phase de cette image-là avec la texture, l'amplitude de celui-là. Et là, j'ai fait l'inverse. Et en fait, là, cette image ressemble beaucoup à celle-là, et celle-là ressemble beaucoup à celle-là. Et donc, en fait, c'est vraiment... Alors, je vous dis ça avec... vous avez vos yeux pour vérifier ce que je vous dis. Mais en tout cas, c'est une espèce de vérification expérimentale très simple de cette phrase qui dit que les contours géométriques sont codés quelque part dans la phase, alors que les textures sont plutôt codées dans les modules de la transformée de Fourier. Et du coup, après, vous pouvez faire des choses mixtes. D'accord ? Je vais prendre cette image-là et celle-là, je crois, voilà. Et du coup, je vais croiser. Je vais garder la phase de l'une et la texture de l'autre, donc je peux faire la géométrie d'une image avec la texture d'une autre image. Donc ça, c'est assez rigolo de faire ce genre. C'est ça qui est génial avec les images, c'est qu'on les met dans l'ordinateur, on fait la transformée de Fourier, on échange deux vecteurs, on fait transformée de Fourier inverse, et hop, on peut vraiment faire des choses assez rigolotes rapidement, quoi. Et donc voilà. Donc maintenant, en fait, une fois qu'on a tout ça, là, je vous ai présenté plein de modèles différents. Et en fait, après, quand on a une application, comment est-ce qu'on choisit finalement quel modèle, quel paramètre, comment est-ce qu'on fait ça? Donc en fait, ça dépend de l'application. Et donc, un premier type d'application que je vais vous montrer, c'est le qui s'appelle la synthèse de texture à partir d'un exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans tous les jeux vidéo, dans les films d'animation, mais après aussi dans l'industrie, dans tous les revêtements synthétiques, que ça soit les sols, les murs, etc. Donc il faut fabriquer des images qui sont, voilà, il faut les fabriquer et il faut qu'elles aient un certain aspect, qu'elles aient une certaine texture, etc. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc le problème, ça peut se résumer ainsi, c'est on vous donne un exemple. Donc ici, on vous donne cette image-là et puis vous devez produire un nouvel exemple, par exemple celui-là, et il faut qu'idéalement, ils aient l'air de venir de la même image, comme si c'était des morceaux différents d'une même grande image. Oui.
J'en ai marre sur ce que tu as dit avant, ça m'a beaucoup surpris.
Ça ?
Sur la phase, mais quand tu dis la phase, il faut vraiment toute la phase de tout le monde. Parce que il prend juste la phase, enfin, c'est la moitié de la phase, enfin, sur la moitié.
Alors la phase, si tu oublies la phase, ça dépend si tu oublies la phase des hautes fréquences ou des basses fréquences en fait. Parce que la phase, c'est ce qui sert à faire le placement de tes bords. C'est pour ça que ça contient la structure géométrique, parce que faire le déphasage, pour créer un bord dans une image, comme tu veux, enfin, la transformée de Fourier, tu es en train d'additionner des sinusoïdes. Donc pour que tes sinusoïdes se mettent, enfin c'est le phénomène de Gibbs, quoi. C'est-à-dire que pour additionner des sinusoïdes et qu'elles arrivent à te faire un bord dans une image, il faut vraiment bien les aligner au bon endroit, et c'est vraiment dans la phase que tu as ça. Après, peu importe l'amplitude de tes sinusoïdes, c'est vraiment la...
Ou des basses fréquences, est-ce que c'est pour couper une fréquence, les hautes ou les basses, c'est gardé quand
même. Ben après, tu peux faire, quand tu coupes les fréquences, tu te mets à faire des filtrages de l'image, donc tu adoucis les bords, tu peux. Ça dépend dans quelle zone de fréquence tu oublies les choses, en fait. Mais on peut faire, oui, on peut faire plein de manipulations sur les phases. Et donc, oui, le problème de la synthèse de texture. Donc là, voilà. Donc, on vous donne un input, un exemple, et vous devez ressortir une nouvelle image de taille arbitraire, mais qui a le même aspect que votre exemple. Donc pour ça, et ben en fait, l'idée générale, c'est de se dire, ben, je vais calculer un certain nombre de statistiques dans mon image, et puis je vais essayer de reproduire une nouvelle image, un nouveau champ aléatoire, qui va avoir à peu près les mêmes statistiques. Voilà, idée simple. Et alors, la première statistique pour laquelle on peut faire ça, ben, c'est les moments empiriques d'ordre 1 et 2, et on va retomber sur nos modèles gaussiens. Donc les modèles gaussiens, ben, en fait, si on se dit, ben, je veux que mon image, elle ait en moyenne la même moyenne que mon image donnée, et puis je veux qu'elle ait aussi la même covariance que la covariance empirique que mon image. Et ben à ce moment-là, je vais générer une image gaussienne qui a cette moyenne-là et cette covariance-là. Et en fait, plutôt que de partir sur l'estimation de la covariance, etc., je peux le faire très simplement en fait en me disant que tous les modèles qui vérifient ça, ils vont être de la forme I égale, il y a la moyenne d'un côté, et puis après je fais la convolution de mon image exemple, I0, avec un bruit blanc W, avec un bruit blanc de taille, la taille que je veux en fait. Et du coup, là ici, le bruit blanc, en fait, ça veut juste dire que aux X différents, vous mettez des gaussiennes de moyenne nulle, et puis de variance, alors il faut normaliser par la taille du domaine, mais c'est un détail. Et du coup, vous avez, comme ça, vous avez généré une nouvelle image, et qui vérifie exactement qu'en espérance, le F1 de I, c'est le F1 de I0, donc il a la même moyenne que le modèle initial, et puis il a aussi l'espérance de la covariance empirique, c'est la même que la covariance empirique de votre image. Donc là, vous avez un modèle qui vérifie exactement ça. Et donc, à nouveau, si on écrit les choses en Fourier, en fait, en Fourier, c'est très simple, parce que les convolutions deviennent juste des produits, et bien votre image en Fourier, c'est juste un I chapeau de Xi, qui est égal à le module de votre image initiale multiplié par une loi de Rayleigh de paramètres fixés, 1 sur oméga, et puis une phase aléatoire exponentielle I phi de xi, où phi de xi, c'est une phase aléatoire qui est indépendante des modules, etc. Et donc, en fait, quand vous avez votre texture, I0, et ben pour générer une nouvelle image, en gros, vous avez juste à multiplier en Fourier par un module aléatoire d'une loi de Rayleigh, et puis une phase, vous mettez une phase aléatoire sur votre image. Et donc, en fait, même visuellement, en fait, le module ici de Rayleigh, il n'a pas grande importance. Il sert juste à bruiter un peu le module. Et donc, ça s'est amené à un algorithme qui est vraiment très, très performant, qui s'appelle l'algorithme de la phase aléatoire, qui a été développé par Bruno Galerne, Yann Gousseau et Jean-Michel Morel. En fait, vous prenez un bout d'image, vous faites sa transformée de Fourier, vous mettez une phase aléatoire, et puis vous revenez dans le domaine de l'image. Et hop, et vous avez créé comme ça, donc il y a plein d'endroits dans les images qui sont en fait localement des textures. Vous faites ça dans un bout du ciel, là vous avez une nouvelle image qui est en chaque point différente, mais qui a le même aspect visuel. Là vous pouvez faire ça sur l'eau, sur la plage, sur le sable, etc. Donc ça c'est un algorithme qui marche vraiment, enfin, ça marche vraiment très très bien pour créer des nouvelles images. Là pour le coup on est vraiment dans les micro-textures, d'accord ? C'est des images dans lesquelles on ne discerne pas très bien les objets. Et donc, en fait, tout ça, ça appartient à la catégorie des bruits blancs filtrés. En fait, on prend un filtre, donc là, le filtre I0, et puis je filtre ça, c'est-à-dire que je fais la convolution avec un bruit blanc, Et j'obtiens une des textures comme ça, où on a tout de suite un aspect de relief. Enfin, ça fait des images tout de suite très réalistes. Et puis, suivant le filtre, on peut faire voilà, un mur de crépi qui n'existe absolument pas, mais qui a l'air plus vrai que nature. Ou vous pouvez faire un jean, pareil, qui n'existe pas, mais qui est plus vrai que nature. Et tout ça, c'est juste en prenant un filtre, un bruit blanc, et puis en faisant la convolution entre les deux. Et donc, après, ça ne marche pas partout. D'accord ? Donc, ça ne marche pas en particulier pour... Les macro-textures ou les textures qui ont des objets plus... voilà. Et pourquoi ça ne marche pas ? Ben c'est justement parce que ces modèles gaussiens sont la limite des modèles shot noise qui sont des translations aléatoires d'une image. Donc en fait, vous faites plein de translations aléatoires, vous additionnez tout ça, vous normalisez. Donc forcément, quand je fais plein de translations de ça, eh ben, je perds le fait que mes objets ils se recouvrent, donc tout se recouvre, donc j'additionne tout, donc à la fin, j'obtiens voilà, quelque chose qui ressemble plus à rien, et on perd vraiment les objets dans les images à cause de toutes ces translations aléatoires. Mais donc, en fait, on peut définir des modèles, voilà, les statistiques d'ordre 1 et 2 ne sont pas tout à fait suffisantes, donc du coup, on peut prendre des statistiques plus compliquées. Et en particulier, donc on revient à l'idée de départ en se disant, bah, en fait, voilà, mon image, je vais la voir comme un point maintenant dans RD, mon image exemple, c'est un point dans RD, je vais faire un certain nombre de mesures dessus, donc je vais mesurer des caractéristiques statistiquement sur cette image, et puis maintenant je vais essayer de générer une nouvelle image I telle que qui va avoir à peu près les mêmes. Donc quel sens on peut donner à avoir à peu près les mêmes caractéristiques ? Eh bien on peut donner à ça un sens probabiliste, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher une loi P sur les images X qui appartiennent à RD, donc là P c'est une loi qu'on est en train de chercher, c'est une loi qui vit en dimension 1 million, d'accord ? Si nos pixels, il y a 1 million de pixels dans une image, ce qui est les tailles standards d'image actuellement, voilà, la distribution P, on les cherche sur R 1 million, d'accord ? Donc autant vous dire qu'on ne peut pas faire les intégrales, on va éviter de les faire. Et donc on va chercher une loi P comme ça, qui est à la fois d'entropie maximale, et puis qui vérifie les contraintes statistiques en espérance. Donc on veut que l'espérance sous P de F de X, ça soit égal à F de I0. Donc ça, c'est ce qu'on s'appelle dans la littérature modèle macro-canonique. Et puis pourquoi on prend la loi d'entropie maximum ? Parce qu'on se dit, bah, pour répondre à ce problème, on n'a qu'à prendre P égale la Dirac en I0. Donc je vous redonne votre image d'entrée. Mais enfin, les industriels, ils ne vont pas être contents si la seule image qu'on leur donne, c'est celle d'entrée. Donc ce qu'on veut, c'est produire de la nouveauté. On veut produire de la nouveauté. Et en même temps, on veut produire le plus de nouveautés possible. Donc c'est ça ce qu'on mesure avec de l'entropie. D'accord ? Donc l'entropie, quand on a une densité, si notre mesure P elle a une densité FP, ben, l'entropie c'est juste l'intégrale de moins FP log FP, et on la mesure comme ça, l'entropie en fait, dans nos images. Donc voilà, donc là le problème c'est trouver une loi d'entropie maximale qui vérifie ces contraintes en espérance. Donc là, pour des questions de multiplicateur de Lagrange, on est rapidement amené à s'intéresser aux lois exponentielles. Donc maintenant, en fait, on va chercher notre modèle parmi des modèles paramétriques Pθ qui sont de la forme, ils sont donnés par leur densité. Donc Fπθ de x, c'est là une constante de la fonction de partition de normalisation, et exponentielle moins le produit scalaire entre θ et f de x moins f de i0. D'accord.
Donc, pardon Agnès, oui. tu veux maximiser l'entropie parce que tu veux être sûr que ta loi elle est très aléatoire.
C'est ça. Okay. Ouais. Je veux pas juste sortir un Dirac en I0, je veux sortir au maximum toutes les images possibles qui vérifient ces statistiques-là en fait. Ça me permet aussi de voir si mes statistiques, ce qu'elles ont capturé en fait, puisque je vais pouvoir comme ça explorer toutes les images qui ont ces statistiques-là. Donc là, oui, avec les histoires de multiplicateurs de Lagrange, du coup, on est amené à chercher dans la famille des lois exponentielles, comme ça. Et donc là, en regardant bien les dimensions, d'accord, donc mon petit x, maintenant, c'est mon image, mais c'est un point de R dimension 1 million, d'accord, c'est R 1 million. Et par contre, les f de x, ils vivent en dimension p, qui sont, p peut être de l'ordre 100, 1000, etc., mais voilà, ça peut être une dimension assez variable, je vous montrerai après. Et donc, on va chercher les lois dans cette famille-là. Et donc z de θ, bah, c'est la constante de normalisation pour faire de ça une loi de probabilité. Donc évidemment, c'est là qu'il est hors de question de calculer ça, d'accord ? Parce qu'on est sur en dimension 1 million. Et alors par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si on calcule le gradient du log de z de θ, eh ben, c'est exactement égal à moins l'espérance sous pθ de f de x moins f de i0. Et puis, si on calcule la SN, et bien la SN, en fait, c'est l'espérance de quelque chose de positif, donc c'est une fonction positive. Enfin, la SN est positive. Donc, du coup, en fait, cette fonction θ donne log z de θ, c'est une fonction qui est convexe. Et donc, ça va bien nous plaire, parce que du coup, on a une fonction convexe, et en fait, on veut atteindre son minimum. S'il existe, ça va être en un θ étoile, et si notre θ étoile, il vérifie le minimum, il annule le gradient, et donc, il vérifie bien nos contraintes en espérance. On a l'espérance sous pθ étoile de f de i qui est bien égale à f de i0. Donc, on va chercher ce θ étoile. Donc, ce θ étoile, en fait, si on le trouve, donc on a vu qu'il valait ça parce qu'il annule justement le gradient du log z de θ. Et à ce moment-là, si on a une autre distribution qui vérifie la contrainte en espérance, donc on a une distribution P qui vérifie l'espérance sous P de F égale F de I0, ce qui est justement l'espérance sous Pθ étoile, et bien en calculant la divergence de Kullback-Leibler entre les deux lois, donc P, a priori, je ne sais pas qu'elle est de forme exponentielle, d'accord ? Je sais juste qu'elle a une densité Fp, et bien en calculant ça, qui est toujours positif, et bien en fait, en développant le calcul, ben justement, ça fait moins l'entropie de P plus l'entropie de Pθ étoile, et comme ça, c'est toujours positif, parce que c'est une divergence de Kullback-Leibler, ça montre que h de p θ étoile est donc plus grand que h de p. Donc non seulement j'ai trouvé mon θ étoile, mais en plus je sais qu'il est d'entropie maximum. D'accord ? Donc mon θ étoile, c'est vraiment lui qu'il faut que je trouve. Donc maintenant, il faut que je trouve ce θ étoile. Et donc, alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver θ étoile ? Et puis surtout, une fois que j'ai mon θ étoile, comment je vais échantillonner à partir de ma loi ? Parce que ma loi, justement, elle vit en dimension très grande. Donc comment est-ce qu'on échantillonne une loi en dimension si grande ? Et donc, en fait, c'est là qu'on a proposé de faire ça en utilisant deux dynamiques qu'on va croiser. Donc d'abord, en fait, pour le paramètre optimal pθ étoile, comme je disais, c'est lui qui minimise le log de la fonction de partition. Donc il minimise cette fonction-là. Donc en fait, on va faire juste une descente de gradient sur ce L de θ. Donc on va faire θ n plus 1 égale θ n plus un petit pas de gradient. Alors le gradient, c'était moins l'espérance, donc c'est pour ça que ça devient un plus delta n. Et puis l'espérance sous pθ n de f de x moins f de i0. Alors quand on fait ça, on se dit très bien, mais il faut quand même que je calcule mon espérance. Donc comment est-ce que je calcule mon espérance ? Bah, on va l'approcher on va tirer des échantillons, et puis on va l'approcher par Monte Carlo en fait. Mais alors, si on veut l'approcher par Monte Carlo, il faut qu'on tire des échantillons, donc il faut tirer des échantillons de pθ. Donc pour tirer des échantillons de pθ, ben on va aussi faire une dynamique approchée en utilisant une dynamique de type Langevin. Et une dynamique de type Langevin, l'avantage, c'est qu'elle s'écrit avec le gradient du log de la proba, et donc vous n'avez pas besoin de la constante de normalisation. Donc c'est l'avantage des dynamiques de type Langevin, il n'y a pas besoin de normaliser vos densités. Et donc, vous faites votre dynamique comme ça, vous alternez un peu de descente de gradient sur θ, un peu d'estimation par la dynamique de Langevin, vous alternez ces deux dynamiques à la suite. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait fait dans la thèse de Valentin de Bortoli. Et donc, on alternait ces deux dynamiques et on montrait qu'en choisissant bien les paramètres, et ben, on convergeait effectivement vers le θ étoile qu'on voulait et que nos échantillons y convergeaient vers des échantillons de pθ étoile. Donc, on peut montrer là-dedans la convergence de ça. Et puis après, maintenant, il y a toute cette question, mais comment est-ce qu'on choisit notre fonction f, en fait. Tout à l'heure, je vous ai montré avec la moyenne, la covariance empirique, mais comment est-ce qu'on choisit f ? Donc maintenant, en fait, on est à l'ère des réseaux de neurones, je ne vous cache pas. Donc on s'est mis à la page, je ne vous aurais pas fait le même exposé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc on a pris des features qui sont des réponses de réseaux de neurones. D'accord ? Donc moi, ça me faisait très peur, les réseaux de neurones. Je me suis dit, non, mais je ne vais pas aller faire tourner un réseau de neurones. Mais en fait, non, on n'a rien besoin d'apprendre. On prend un réseau de neurones qui a déjà été entraîné pour autre chose. Donc là, c'est le réseau qui s'appelle VGG19. C'est un des premiers réseaux de neurones convolutionnels qui a été entraîné pour faire de la classification d'images naturelles. Donc c'est quelque chose qui sait reconnaître les chats, des chiens, des voitures, des avions, voilà. Mais peu importe. Enfin, on s'en sert juste comme une fonction qui sort des caractéristiques. Ça calcule des features sur... voilà. En fait, c'est des convolutions successives et avec des non-linéarités qui sont mises au fur et à mesure. Donc vous calculez comme ça des choses au fur et à mesure. Et puis, donc, ce qu'on a pris, c'est ce que nous... On met notre image I0 en entrée, notre réseau de convolution, là, il nous calcule plein de choses, et puis on prend la sortie. Donc qu'est-ce qu'il a calculé à certaines couches, comme ça ? On a pris certaines couches, et puis on a calculé qu'est-ce qu'il a calculé sur ces couches-là. Et c'est ça qui nous sert de f de I0. Et donc les F de I0, finalement, on arrive dans un espace qui est de dimension juste 1000. D'accord ? Ici, on a juste 1000, on a gardé 1000 features. Et donc, parce qu'on se dit, si ces réseaux ils sont capables de distinguer les chats des chiens, des voitures, des avions, c'est qu'ils arrivent à calculer des choses sur les images qui capturent de la géométrie, des images. On ne sait pas ce qu'ils calculent, mais finalement, ils calculent des choses intéressantes sur les images. Et donc, ça permet de générer comme ça des images. Si vous avez, voilà, on reprend notre problème de synthèse de texture. Donc là, c'est mon image I0. Là, c'est si j'avais fait, j'initialise mon modèle comme ça, c'est si j'avais fait le modèle gaussien qui a la même moyenne et la même covariance, ben, j'aurais obtenu ça. Donc vous voyez que vous êtes très loin des structures. Et puis là, c'est notre convergence de notre double dynamique, là, Langevin descente de gradient, avec au bout de 1000 itérations, 10 000 itérations. Pardon. Et donc, vous avez ça. Et puis, vous pouvez faire pareil, en fait, sur ici, vous avez les images exemples. Et puis, vous avez votre... Ici, quand vous utilisez toutes les couches du réseau de neurones, vous obtenez des images générées comme ça. Et donc, on voit qu'on a vraiment réussi à capturer, en fait, les objets qu'il y a dans l'image, le placement, etc. Et puis, vous pouvez aussi oublier une partie de votre réseau de neurones. Vous pouvez prendre juste les couches profondes ou juste les couches proches. Et donc, on obtient aussi... Comme ça, ça permet de voir... Qu'est-ce que notre réseau de neurones y capture quelque part, d'accord ? À quel endroit du réseau de neurones est stockée la géométrie ? Est-ce que c'est dans les couches profondes ? Est-ce que c'est dans les couches plus proches ? Voilà. Donc ça permet de faire plein de jolies images. Puis ça permet aussi, juste en passant, ça peut faire aussi de la, ça s'appelle du transfert de style. C'est-à-dire que vous prenez les réponses du réseau de neurones sur cette image-là ou sur celle-là ou sur celle-là, et puis vous gardez une partie des features de cette image exemple. Donc vous avez la géométrie de ça qui se retrouve mélangée avec la texture de l'autre. C'est un peu le même genre que tout à l'heure, la phase avec le module. On arrive à se séparer quelque part dans notre réseau. Il nous permet de... Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a calculé un peu comme une phase et une amplitude. Il m'a calculé la texture et puis la géométrie, en fait. Voilà. Donc, après, je vais passer juste à l'application en mammographie digitale. Donc, en fait, quel est le but en fait dans ces applications en mammographie digitale ? Il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir comprendre la perception visuelle, essayer de comprendre qu'est-ce qu'un radiologiste voit ou peut voir quand il regarde une mammographie. Il va y avoir la question aussi générer des nouvelles images pour faire de l'augmentation de données, surtout à l'heure de l'IA, etc. Tous les algorithmes d'apprentissage, ils ont besoin de beaucoup de données, et donc c'est difficile d'avoir des données médicales. Donc si on peut en générer des synthétiques. Eh ben c'est une bonne chose pour entraîner des modèles. Et puis, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle des essais cliniques virtuels. C'est-à-dire que les essais cliniques virtuels, c'est... on a des images anatomiques qui sont virtuelles, et après, on peut simuler ce que c'est qu'une radiographie. C'est juste une intégrale, en fait, le long des rayons. Et puis, on peut simuler ce qui se passe quand on met plus ou moins, on augmente plus ou moins la dose de rayon X, on change les images. Et tout ça, ça permet de le faire... virtuellement, d'accord ? On n'a pas besoin d'avoir des patients pour aller faire des images dessus. Donc là, en fait, tout ça s'inscrit dans le cadre de pourquoi on s'intéresse-t-on aux mammographies. C'est parce que, en fait, vous le savez sûrement, le cancer du sein, ça reste un des cancers les plus dangereux pour les femmes, et que la détection à un stade précoce est vraiment quelque chose de capital, en fait. Donc il y a des campagnes systématiques de dépistage sur des mammographies, et détecter les choses tôt, ça permet au maximum de soigner et d'allonger la durée de vie. Et donc ça, en fait, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler depuis pas mal d'années dans le cadre de tests chiffres avec General Electric, qui est constructeur d'appareils de mammographie. Et donc voilà, on est à la troisième test chiffre avec eux, et donc ça permet aussi d'avoir des images, ça permet d'avoir les problèmes qu'ils ont. Ça, c'est un aller-retour assez intéressant, en fait, pour développer les applications. Et donc voilà, le but, ça ne va pas être de remplacer les radiologues, d'accord ? On ne veut pas remplacer les radiologues, on veut juste leur fournir des outils d'aide au diagnostic. C'est de leur dire, attention, ici, telle image, il peut y avoir ça, ou attention, avec l'historique de telle patiente, il faut mieux regarder ça. Enfin voilà, c'est pour les aider dans leur diagnostic. Et donc, c'est aussi pour aider à choisir la dose optimale de rayon pour, comment continuer à voir des choses dans les images. Mais voir des choses, ça veut dire mettre beaucoup de rayons, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut diminuer cette dose de rayon tout en continuant à détecter les choses importantes dans les images. Et donc, en fait, les mammographies, donc voilà, ça ressemble à ça, une mammographie globale. Donc, si on regarde juste localement une mammographie, donc ici, j'ai fait juste un crop de cet endroit-là, et ben, c'est bien modélisé, entre guillemets, par un champ gaussien, justement une texture gaussienne, où là, pour le coup, c'est une loi de puissance dans les coefficients de Fourier. C'est-à-dire qu'il y a plein de littérature en imagerie médicale où justement ils cherchent à estimer ce bêta, la décroissance en Fourier du spectre de leur mammographie. Et donc, il y a un certain consensus pour dire que c'est bien modélisé par ça. Alors, ça modélise le fond de la texture, d'accord ? Ça ne modélise pas les vaisseaux, ça ne modélise pas les conduits lactaires, etc. C'est vraiment une modélisation juste de texture générale. Et puis c'est une modélisation isotrope, alors que dans les mammographies, il y a clairement une orientation qui est privilégiée. Ce n'est pas des images isotropes. Et donc, en fait, qu'est-ce que voit un radiologiste, en fait ? Qu'est-ce que va voir un radiologiste ? Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit dans une image de bruit ? Donc là, regardez bien le centre de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez un petit plan blanc qui est apparu, une petite tache blanche. Elle grossit. Vous la voyez ? Donc là, plus elle est grosse, plus vous la voyez. D'accord ? Plus elle est grosse, plus elle est voyante. Maintenant, je vais faire la même chose dans une texture en loi de puissance 1 sur xi à la puissance bêta, donc avec le bêta égale 3. Donc là, vous voyez le petit point blanc qui est apparu au milieu, la petite tache. Donc là, elle est là. Et là, est-ce que vous la voyez ? Si vous fermez les yeux, on ne la voit plus, en fait. D'accord ? Donc là, dans ces textures-là, il y a le phénomène inverse qui se produit. C'est que plus la tache est grande, moins on la voit. Et donc ça s'explique, en fait. Ça s'explique très bien mathématiquement. C'est que, justement, l'avantage d'avoir un modèle statistique, c'est qu'on peut calculer des choses dedans. Et les choses qu'on va calculer dans le modèle statistique, eh ben, ça reflète la perception qu'en ont les radiologues. Donc ça, c'est un travail qui a été fait dans la thèse de Bénédicte Grosjean avec Lionel Moisan, qui était aussi une thèse CIFRE avec General Electric. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire quand on a une image gaussienne, eh ben, ça nous permet de calculer quelle est la probabilité, par exemple, que le contraste en un point X soit plus grand qu'un certain seuil C. Donc, le contraste, c'est défini comme la différence de niveau de gris entre le niveau de gris moyen à l'intérieur d'une boule, enfin d'un disque, centré en X et de rayon grand R, et puis une couronne autour, vous prenez une couronne de rayon alpha R, et vous regardez la différence de niveau de gris entre ce qui est autour de mon point X et ce qui est dans la couronne autour de X. Et c'est ça ce qu'on appelle le contraste de rayon R autour de mon point X. Et donc, en fait, ça, vous pouvez le calculer explicitement dans un modèle gaussien, parce que vous êtes juste en train de faire des calculs sur des gaussiennes, en fait, tout ça, ça devient gaussien. Et puis, ce qu'on peut montrer, c'est que, justement, si on veut, à rayon donné, quel est le contraste minimal pour que ça soit cette probabilité devienne petite, et bien à ce moment-là, ça vous donne des courbes d'équicontraste. Et donc, pourquoi ça s'est lié à la perception visuelle ? C'est parce qu'en fait, notre œil, il voit les choses très improbables. D'accord ? Si vous avez quelque chose qui a une probabilité grande d'apparaître, ben, comme dans mes textures de mammographie, là, avoir une tache blanche, ça a une probabilité grande d'apparaître. Donc, ça ne va pas lui sauter aux yeux parce qu'il y en a partout des grosses taches blanches, en fait. Alors que quand vous êtes une petite tache blanche, eh ben, ça va vous sauter plus aux yeux dans une texture comme ça que dans une... Donc, en fait, la perception d'un objet est directement liée à sa probabilité d'apparition dans votre image. Et donc, c'est pour ça que connaître ces courbes, ça permet d'avoir des courbes de ce qu'on appelle de contraste détail, où ça permet justement, suivant votre loi de puissance dans la texture, de déterminer si ma tâche, plus elle est grosse, est-ce que plus je la vois, ou au contraire, plus elle est grosse, moins je la vois. D'accord ? Et ça, c'est vraiment lié, il y a un phénomène critique au bêta égale 2, et donc on a des comportements très différents. Et donc ça, c'est quelque chose que les radiologues avaient remarqué, en fait. On avait vu un exposé d'un radiologue, là, Burgess, qui disait que, en fait, il y avait des images de mammographie où il y avait des masses. C'est un type de lésion, en fait, qui s'appelle des masses, qui apparaissent sous forme de taches blanches, qui étaient énormes, mais qu'à la mammographie, ils ne voyaient pas, en fait. Parce que, justement, ça s'est caché dans la texture. La texture elle-même crée des taches comme ça, donc on ne les voit pas, ces taches-là. Alors après, rassurez-vous, mesdames, vous n'êtes pas nombreuses, mais... Après, il y a d'autres échographies, etc., sur lesquelles on voit... Il y a d'autres systèmes d'imagerie dans lesquels on voit ces masses, etc. Donc voilà, il y a d'autres, mais c'est quelque chose que les radiologues avaient observé. Mais, et là, ça permet de le quantifier exactement et de vérifier ça. Et donc voilà, donc après on peut mesurer comme ça des détectabilités en fait des tâches. Donc là vous avez un petit point blanc donc qui est très détectable. Et puis après plus il est gros, bah moins il est détectable en fait. Ça permet vraiment de quantifier des choses qu'on observe dans les mammographies. Et donc après voilà, ces modèles gaussiens, on les a utilisés aussi pour faire, comme je disais, de l'augmentation de données. Donc là, l'augmentation de données, en fait, on a simulé des patchs de mammographie de façon très simple. On a pris un champ gaussien. Et puis on a simulé un bord d'image, donc par un bord d'ellipsoïde, et puis on a gardé l'image, le fond, etc. Et puis après on peut mettre artificiellement des lésions dedans. Donc là il y a des petits points blancs, ça s'appelle des microcalcifications. Ici il y a des masses blanches, etc. Et donc après on peut entraîner justement des systèmes de machine learning, de réseaux de neurones, pour faire de la classification là-dedans. Donc évidemment c'est des images synthétiques qui ne sont pas très réalistes, mais ça permet de... Ces réseaux de neurones, c'est en général très difficile à entraîner, et donc ça permet d'avoir un point de départ, ça permet d'avoir une initialisation des réseaux de neurones pour après, quand on les fait tourner sur des vraies images. Alors les vraies données, on n'en a pas beaucoup, surtout des données annotées, en fait, il n'y en a pas tellement, et du coup ça permet de pré-entraîner les réseaux de façon efficace. Et donc pour finir, je vais revenir au modèle booléen. Donc on est revenu au modèle booléen, et alors le modèle booléen, en fait, ça permet de créer un modèle qui est beaucoup plus anatomique, dans le sens où, en fait, on va créer un modèle booléen en se disant que quand vous prenez un volume comme ça, une tomographie d'un sang, et ben à l'intérieur, si vous séparez en deux tissus, il y a le tissu fibreux et le tissu fibroglandulaire et le tissu adipeux. Donc vous avez en gros deux sortes de tissus en simplification, donc blanc et noir. Et donc, en fait, à la fin, vous êtes amené à générer des volumes comme ça, qui sont des volumes... Alors on est en 3D, mais c'est des volumes qui sont des volumes binaires. Et donc ça s'approche très bien par des modèles booléens. Donc les modèles booléens, c'est à l'échelle médium. Donc à l'échelle médium, en fait, vous avez vos centres qui sont qui ont une certaine distribution de processus ponctuels. Et puis dessus, on a mis des ellipsoïdes. On a mis comme ça des unions d'ellipsoïdes. Et puis après, pour créer en fait l'aspect tissu un peu irrégulier, on a utilisé des tessellations de Voronoi. Là, vous jetez un processus de Poisson très fin, vous faites les cellules de Voronoi, et puis comme ça, vous cherchez après vos ellipsoïdes, mais qu'avec des bords qui sont dans les cellules de Voronoi. Donc comme ça, vous obtenez un volume des ellipsoïdes approchés par des petits Voronoi. Et donc, ça permet comme ça de recréer des images. Donc ici, ça, c'est les vraies images en haut, et puis ça, c'est les images reconstruites en utilisant une approximation par ce modèle-là. Vous cherchez à approcher ça par des ellipsoïdes et après vous refaites les projections, etc. Et donc ça permet d'avoir un modèle beaucoup plus réaliste par rapport au modèle gaussien, en particulier parce que vous pouvez jouer sur la densité d'ellipsoïdes que vous mettez et du coup vous avez des images qui sont plus ou moins denses en fait, qui reflètent la variabilité des mammographies où il y a des images plus ou moins denses. Et puis surtout dans ces volumes, après on a fait des tests où on mettait des lésions à l'intérieur, des calcifications ou des masses. Et puis on pouvait voir à partir de quelle dose de rayon elles apparaissaient justement dans la texture et à partir de quelle dose on pouvait avoir de la visibilité là-dessus. Donc voilà, et puis maintenant où on en est, et ben là je vais juste finir en une minute sur... on en est à utiliser toutes les méthodes d'IA générative pour justement générer des nouvelles images encore plus réalistes. Parce que là, si vous voyez, en fait, mon modèle d'ellipsoïde, il est bien, mais il est local. Je génère pas du tout un sein dans son ensemble. Il n'y a pas les bords, il n'y a pas la forme globale, etc. J'ai juste fait un petit volume d'intérêt à l'intérieur. Donc maintenant, pour faire des vraies images, et donc il y a quelque chose qui en ce moment agite beaucoup les gens, qui s'appelle les modèles de diffusion pour les images. Alors je vous le présente juste rapidement, parce que l'idée est assez géniale. C'est de se dire, pour générer une nouvelle image, je vais faire une équation stochastique inverse, une EDP stochastique inverse. C'est-à-dire que l'EDP forward, c'est de se dire, si je prends une image, je lui ajoute un peu de bruit, un peu plus de bruit, un peu plus de bruit, etc. Donc ça s'écrit comme une équation forward. J'ajoute du bruit à mon image, et à la fin, j'obtiens une image qui est quasiment que du bruit. D'accord ? Donc j'ai quasiment que du bruit. Et maintenant, je me dis, pour générer une nouvelle image, je vais générer un bruit, et puis je vais faire l'équation reverse. Je vais partir dans l'autre sens. Et donc ça marche super bien. Ça marche super bien, sauf qu'ici, il y a une fonction de score. C'est toujours la même, là, qu'on retrouve le gradient du log de la densité qui est à apprendre. Et cette fonction de score, c'est là où les réseaux de neurones interviennent. On l'apprend, en fait, à partir d'un réseau de neurones sur notre base d'images d'entraînement. Et puis, on apprend ça, et puis après, on fait tourner ça, et puis on retrouve des nouvelles images. Et ça marche, mais la plupart des images que vous voyez produites par des réseaux de neurones, maintenant, c'est avec ces modèles de diffusion. Et ça marche vraiment bien, en fait. Et on ne comprend pas très bien pourquoi ça marche si bien. Parce que, enfin, en même temps, si ça marchait si bien, ça nous reproduirait les images d'entraînement, mais non, ça en produit des nouvelles, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Donc voilà, donc c'est là où on en est actuellement. J'ai malheureusement pas d'image à vous montrer parce que on a commencé le mois dernier. Et voilà, donc merci. Juste en conclusion, il y a plein de modèles différents de géométrie stochastique. La difficulté principale, à mon sens, c'est de trouver le bon équilibre entre des modèles trop simples et puis des modèles trop compliqués. D'accord ? Il faut que les modèles soient à la fois réalistes, mais dans lesquels on puisse faire des calculs. Donc le compromis n'est pas pareil, pas toujours facile à trouver. Et puis ce qui n'est pas résolu, c'est voilà, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un modèle ? Quand on fait de la modélisation pour des applications, comment est-ce qu'on évalue ? Il y a plein de fois où je vous ai dit, regardez l'image, regardez c'est beau, regardez ça ressemble, mais c'est pas très scientifique, c'est pas très mathématique. Voilà. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.